Chapitre 16. Les profondeurs. Dans les cuvettes du nord de la ville, on ne trouvait pas de palais, seulement des boutiques, des tavernes, des auberges, des écuries et des hangars à chariots. Si les rues grouillaient d'activité autour des grands entrepôts des fabriques, aucun carrosse ne s'aventurait jamais dans les profondeurs, où la plupart des artères, de toute façon, étaient à peine assez larges pour laisser passer une charrette. Ici, les artistes de rue portaient des tenues aux couleurs passées, mais ils compensaient ce désavantage en criant plus fort. Sans doute par mimétisme, les commerçants et leurs clients beuglaient, comme s'ils avaient voulu qu'on les entende à trois rues de distance. À coup sûr, des coupe-bourses et toute une théorie de ruffians déambulaient dans la foule, certains rentrant se reposer après une dure nuit de labeur, tandis que d'autres commençaient à peine leur journée. Avec tant de marchands en ville, la présence de cette faune était inévitable. Quand il sentit pour la seconde fois des doigts frôler sa cape, l'âne mit sa bourse à l'abri sous sa chemise. Grâce au domaine qu'il avait reçu en héritage à sa majorité, n'importe quel banquier lui aurait avancé 10 fois la somme qu'il avait sur lui. Mais s'il se faisait détrousser, il devrait dans un premier temps aller demander l'hospitalité au perchoir du cerf. Dans les 3 premières auberges, de mornes bâtiments en pierre grise signalés par des enseignes tapageuses, le patron annonça aux 2 voyageurs qu'il ne pouvait même pas leur louer un trou de souris. Les gardes du corps des marchands et les colporteurs de tout poil avaient investi jusqu'au grenier de cet établissement bon marché. Mécontent, Boukama grommela qu'il détestait dormir dans la paille, mais il ne fit pas allusion au matelas de plumes et au drap fin dont l'âne l'avait privé. À la 4e tentative, les 2 voyageurs laissèrent leurs chevaux dans une écurie. Puis l'âne franchit avec Boukama le seuil de la Rose Bleue, où il avait l'intention bien arrêtée de trouver de la place, même s'il devait faire le siège du propriétaire jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la salle commune, le brouhaha des conversations et les éclats de rire couvraient presque la voix d'une fille mince qui s'accompagnait à la cithare. Un nuage de fumée de pipe empêchait quasiment de voir le plafond, et une bonne odeur de mouton rôti flottait dans l'air. Dès que l'aubergiste aux cheveux gris, une grande et belle femme, aperçut l'âne et Boukama, elle tira sur son tablier blanc rayé de bleu, puis courut vers eux, le regard brillant. Avant que l'âne ait pu lui présenter sa requête, elle prit Boukama par les oreilles, le força à baisser la tête et l'embrassa fougueusement. Connues pour ne pas être des oies blanches, les candoriennes ne se livraient cependant pas fréquemment à de tels débordements en public. À toutes les tables, des sourires à rien qu'aucun naquirent sur les lèvres des buveurs de bière ou de vin.
« Je suis moi aussi très content de te revoir, Russell, »
dit Boukama quand l'aubergiste l'eut lâché.
« J'ignorais que tu avais une auberge ici. Crois-tu que... »
En parlant, Boukama commit l'erreur de baisser les yeux au lieu de soutenir le regard de Russell. La punition ne se fit pas attendre. D'un formidable coup de poing à la mâchoire, l'aubergiste fit reculer de 3 pas l'homme qu'elle venait d'étreindre.
« 6 ans sans la moindre nouvelle »
cria-t-elle.
« 6 ans !»
Prenant de nouveau Boukama par les oreilles, Russell lui donna un baiser encore plus fougueux et encore plus long que le précédent. Qu'il fût consentant ou non, le vétéran ne résista pas, car d'une simple torsion des poignets, l'aubergiste pouvait lui faire chèrement regretter toute tentative de lui échapper. Mais si elle l'embrassait ainsi, on pouvait déduire qu'elle ne préméditait pas de lui enfoncer un couteau dans le cœur. Enfin, en principe.
« Je parie que maîtresse Arovni trouvera une chambre à Boukama, et qu'elle en aura aussi une pour toi. »
dit une voix familière dans le dos de l'âne. Se retournant, l'âne croisa les avant-bras avec le seul homme présent dans la salle, Boukama excepté, qui fut aussi grand que lui. Rain Venamar, son plus vieil ami, si on oubliait son mentor. Alors que Russell mobilisait toujours l'attention de l'irascible guerrier, Rain entraîna l'âne vers une petite table ronde dans un coin de la salle. De 5 ans l'aîné de l'âne, Rain était lui aussi un Malkyrie. Mais ses cheveux nattés étaient ornés de clochettes d'argent, et aucune trace plus claire sur son front n'indiquait qu'il ait un jour porté un Hadori. Avec les clochettes d'argent qui ornaient le haut retourné de ses bottes et les manches de sa veste jaune, il avait fière allure. Mais aux yeux de Boukama, eh bien, s'il ne détestait pas vraiment Rain, ou plutôt pas tout à fait, le vétéran, attendu son humeur actuelle, risquait de l'accueillir à peine plus chaleureusement que Nazar Kourenin en personne. Alors que les 2 amis s'asseyaient, une jolie serveuse au tablier rayé vint apporter 2 chopes de vin aux épices que Rain, de toute évidence, avait commandé dès qu'il avait aperçu l'âne. Les yeux noirs et la bouche sensuelle, la jeune femme examina l'âne de la tête aux pieds avant de poser devant lui une des chopes. Annonçant qu'elle se nommait Lyra, elle murmura une invitation sans ambiguïté, au cas où il envisagea de passer la nuit en ville. Désirant dormir durant la nuit à venir, et rien d'autre, le guerrier baissa la tête et souffla qu'elle lui faisait trop d'honneur.
Avec un rire de gorge, Lyra se pencha pour lui mordiller l'oreille. Enfin, la lui mordre plutôt, et pas doucement.
« Demain matin, »
annonça-t-elle à haute et intelligible voix,
« je t'aurai fait tellement d'honneur que tu auras du mal à tenir debout. »
Des rires saluèrent cette déclaration. Rhein priva Lan de toute possibilité de dissiper le malentendu. Lançant une fort intéressante pièce à Lyra, il la renvoya d'une coquine claque sur la croupe. Après avoir glissé la pièce dans son décolleté, la jolie serveuse s'éloigna, mais non sans jeter des coups d'œil langoureux à Lan par-dessus son épaule. Le guerrier en soupira d'accablement. S'il tentait de la refuser désormais, elle risquait bien de laver l'insulte dans son sang.
« Toujours aussi chanceux, y compris avec les femmes, »
lança Rhein. Son sourire manquait de sincérité, comme s'il avait eu lui-même des vues sur Lyra.
« Pourtant, la lumière m'est témoin qu'elles ne peuvent pas te trouver beau. Chaque année, tu deviens un peu plus laid. Un de ces jours, il faudra que j'essaie ta fausse pudeur, histoire que les belles se croient obligées de faire le premier pas. »
Lan voulut répondre, mais il se ravisa et but une gorgée de vin. Il n'aurait pas dû avoir besoin de s'expliquer. Et de toute façon, voilà beau temps que Rhein était plus en mesure de comprendre. L'année où Lan avait fêté ses 10 ans, le père de Rhein était parti s'installer en Arafel, emmenant bien entendu son fils. Même s'il portait une épée au côté et pas de lame croisée dans le dos, Rhein était désormais jusqu'au bout des ongles un enfant de l'Arafel. Du coup, il ne voyait aucun inconvénient à engager la conversation avec des femmes qui ne s'étaient pas adressées à lui en premier. Élevé au Chiennard par Boukama et ses compagnons, Lan avait grandi au sein d'une petite communauté respectueuse des coutumes et des lois du Melkier. Si Lyra partageait son lit cette nuit, elle découvrirait qu'il n'avait rien de timide ni de pudique, une fois en situation. Mais c'était à elle de décider quand elle entrerait dans ce lit et quand elle en sortirait. Jetant des coups d'œil par-dessus leur chope ou leur gobelet, pas mal de clients observaient la table de Lan. Une femme plutôt dodue, vêtue d'une robe remarquablement peu transparente, pour une domanie s'entend, ne faisait aucun effort pour cacher sa curiosité, tandis qu'elle conversait avec un type à la moustache recourbée qui arborait une grosse perle à l'oreille droite. Les deux bavards devaient se demander si la rivalité concernant Lyra pouvait tourner au massacre. Un homme porteur du Hadori pouvait-il vraiment tuer pour un oui ou pour un non?
« Je ne m'attendais pas à te trouver ici, » dit Lan en reposant sa chope. « Tu escortes une caravane commerciale ?»
Boukama et l'aubergiste n'étaient nulle part en vue, remarqua Lan distraitement.
« Nous venons de Chol Arbella. Mon employeur est le marchand le plus chanceux de l'Arafel, dit-on. Enfin, disait-on, pour le bien que ça lui a fait. Nous sommes arrivés hier, et cette nuit, à 2 pas d'ici, des voyous lui ont tranché la gorge. Pas de voyage de retour grassement payé cette fois. »
Rhein eut un sourire mélancolique, puis il but une bonne gorgée de vin, à la mémoire du marchand défunt ou de la moitié de ses gages partis en fumée.
« Que la lumière me brûle! Je ne m'attendais pas non plus à te voir ici. Tu ne devrais pas prêter l'oreille aux rumeurs, Rhein. Depuis mon départ pour le sud, je n'ai pas récolté une blessure digne d'être mentionnée. »
Lan décida de taquiner Boukama s'il finissait par obtenir les chambres désirées. Par exemple, en lui demandant s'il les avait payées en nature. L'indignation le tirerait peut-être de sa morosité.
« Les aïels, »
lâcha Rhein.
« Je n'ai jamais cru qu'il te donnerait du fil à retordre. »
Facile à dire, quand on n'avait pas affronté les guerriers voilés.
« Je pensais que tu serais avec Edain Arel, Lan, à Tchatchin, d'après ce que j'ai entendu dire. »
Lan se concentra de nouveau sur son interlocuteur.
« Pourquoi devrais-je être aux côtés de Dame Arel ? » demanda-t-il,
sans agressivité, mais en mettant l'accent sur le « dame ».«
Ouh, du calme, mon ami. Je ne voulais pas... »
Prudent, Rhein abandonna le sujet.
« Bon sang, ne prétends pas que tu n'es pas au courant. Elle a de nouveau levé la grue dorée, en ton nom, bien entendu. Depuis le début de l'année, elle a sillonné les terres frontalières de Falmoran à Maradon. Et sur le chemin du retour, on dit qu'elle s'est arrêtée à Tchatchin. »
Il secoua la tête, faisant tinter légèrement ses clochettes d'argent.
« Ici, à Kanloum, il doit y avoir 200 ou 300 hommes prêts à la suivre. Enfin, à te suivre. Tu n'en croirais pas tes yeux. Le vieux Kourenin a éclaté en sanglots en l'écoutant parler. Tous sont résolus à faire renaître le Malkier de ses cendres, qui gisent dans la flétrissure. « Ce qui est mort dans la flétrissure est à jamais parti, » répliqua Lan.
Il en avait les sangs glacés. Soudain, il comprenait pourquoi Sokara avait paru surpris, qu'il ait l'intention de continuer son chemin vers le nord. Et la déclaration du jeune garde prenait tout son sens. À vrai dire, même les regards des clients semblaient différents à cette lumière. Et Edain était impliqué dans cette affaire. Depuis toujours, elle est maître debout au cœur de la tempête.
« Je dois aller voir mon cheval !»
dit l'âne en se levant. Rhine lança quelque chose à propos d'une tournée des tavernes le soir, mais il ne l'écoutait déjà plus. Passant par les cuisines, une vraie étuve avec la chaleur des fours et des cheminées, il déboula dans la fraîcheur de la cour, où planait une odeur de fumée, de foin et d'équidés. Sur le toit des écuries, une alouette chantait. Au printemps, ces oiseaux se montraient bien avant les merles migrateurs. À Falmoran, les alouettes chantaient, au moment où Edain avait parlé à l'oreille pour la première fois. Les montures étaient déjà installées. La sellerie, les harnais et les sacoches proprement posées sur les couvertures de sel, à cheval sur la porte de chaque stall. Mais les paniers d'osier avaient disparu. À l'évidence, maîtresse Arovni avait prévenu les palefreniers que Boukama et son compagnon seraient ses hôtes ce soir. Il ne restait plus dans le bâtiment que la fille d'écurie chargée du nettoyage. En silence et sans cesser de travailler, elle regarda l'âne s'assurer que Félin dansant et les deux autres chevaux allaient bien. Puis l'âne commença à marcher de long en large, dans l'allée centrale au sol couvert de paille. Tentant de réfléchir, il en fut incapable, car un nom, Edain, ne cessait de retentir dans sa tête. Devant ses yeux, dansait l'image de cette femme aux longs cheveux noirs et aux grands yeux sombres qui aspiraient littéralement l'âme d'un homme, même quand il le regardait sans une once de tendresse. Se tapotant d'abord la bouche puis le front, la fille d'écurie finit par marmonner quelques mots à l'intention de l'âne. Poussant sa brouette à demi pleine de crottin, elle sortit ensuite du bâtiment, pressée comme si elle avait le ténébreux à ses trousses, puis ferma à la hâte la porte à double battant, laissant le guerrier dans une obscurité presque totale. Une fenêtre du grenier à foin étant entrouverte, un filet de lumière lui permettait de continuer à voir où il mettait les pieds. L'âne eut une moue amère. La fille avait-elle eu peur parce qu'il portait un hadori? S'était-elle sentie menacée par sa façon de marcher de long en large? Soudain, il s'avisa que sa main courait nerveusement sur la longue poignée de son épée. Marcher de long en large, baliverne. Le visage tendu à l'extrême, il avait d'instinct reproduit une façon de se déplacer appelée le léopard dans les hautes herbes. Une démarche recommandée lorsqu'on était entouré d'ennemis. Il devait absolument se calmer. S'asseyant en tailleur sur un ballot de paille, il invoqua le Kodi et dériva bientôt dans un vide apaisant. Ne faisant plus qu'un avec le ballot de paille, les écuries et l'épée rangée dans son fourreau posé près de lui, il sentit la présence des chevaux, occupés à se restaurer, et entendit le bourdonnement des mouches qui volaient autour d'eux. Tout son environnement était désormais une part de lui-même, surtout l'épée. Mais pour l'heure, il cherchait uniquement l'absence d'émotion. Sortant de sa bourse une chevalière en or ornée d'une grue en plein vol, il la fit tourner entre ses doigts. La bague des rois du Malkier, portée par des hommes qui, 900 ans durant, avaient repoussé les assauts des ténèbres. Combien de fois ce bijou avait-il été refondu, l'ancienne chevalière devenant une partie de la nouvelle? Malgré le passage du temps, il devait rester quelques particules de la chevalière portée par les rois de Ramdachar, un pays qui existait bien avant le Malkier, et par ceux d'Aramael, une nation qui précédait le Ramdachar. Ce bijou représentait en fait 3000 ans de lutte contre la flétrissure. Si l'âne le possédait quasiment depuis le jour de sa naissance, il ne l'avait jamais porté. En temps normal, regarder la chevalière était une épreuve. Il s'était pourtant astreint à le faire chaque jour. Mais ce soir, sans le vide du Kodi, il n'en aurait probablement pas été capable. Dans cet état de détachement, les pensées dérivaient librement et les émotions sombraient à l'horizon tel le soleil couchant. Dans son berceau, on avait déposé 4 présents. La chevalière qu'il serrait entre ses mains, le médaillon qu'il portait autour du cou, l'épée qui lui battait la hanche et un serment qu'on avait prêté en son nom. Parce qu'il contenait un portrait miniature de ses parents, dont il ne gardait hélas aucun souvenir, le médaillon était son bien le plus précieux. Le serment, en revanche, pesait très lourd sur ses épaules. Se dresser contre les ténèbres aussi longtemps que le fer et la pierre subsisteront. Défendre le Malkier jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et venger ce qu'il aura été impossible de défendre. À présent, il ne restait plus rien à défendre, mais un pays entier à venger. Et on l'avait entraîné à cette fin depuis qu'il était capable de marcher. Avec au cou le cadeau de sa mère et au poing l'épée de son père, le symbole de la chevalière gravé sur le cœur, il luttait depuis son 16e anniversaire avec pour seul objectif de venger le Malkier. Cela dit, il n'avait jamais conduit des hommes dans la flétrissure. Boukama et d'autres guerriers l'y avaient accompagné, mais c'était différent. Cette guerre ne concernait que lui. Les morts ne revenaient jamais, et on ne pouvait pas davantage redonner vie à un pays. Et voilà qu'Edain Harel en avait l'ambition. Son nom résonna à l'infini dans le vide du Cody. Une multitude d'émotions se dressaient autour de lui comme des pics imprenables, mais il recouvra la paix et la sérénité en les confiant à la fureur d'une flamme imaginaire. Alors, son cœur battit à l'unisson avec celui des chevaux au repos dans leur stall, et le battement des ailes de mouche devint le contre-champ rapide au rythme régulier de sa respiration. Edain était sa Carneira, sa première amante. Malgré la paix profonde qui l'enveloppait, 1000 ans de tradition lui criaient de ne pas oublier cela. Il avait 15 ans, et Edain plus du double de cet âge, lorsqu'elle avait écarté les cheveux qui lui tombaient à l'époque jusqu'à la taille, pour lui murmurer à l'oreille ses intentions. En ce temps-là, les femmes le traitaient encore de beau garçon, et elles se réjouissaient de le faire rougir. 6 mois durant, Edain s'était enorgueilli de le voir pendu à son bras et chaudement bordé dans son lit, jusqu'à ce que Bukama et les autres hommes lui aient remis le Hadori. Selon les coutumes en vigueur dans les terres frontalières, l'âne était devenu un homme des années plus tôt, le jour de son 10e anniversaire, lorsqu'on lui avait officiellement remis l'épée de son père. Mais pour les Malkieri, la lanière de cuir était un symbole bien plus important. Une fois le Hadori noué autour de sa tête, il était devenu libre de décider seul où il allait, quand il y allait et comment. Dès cet instant, la sombre chanson de la flétrissure était devenue un appel qui couvrait tous les autres. Et le serment, si longtemps réduit à un murmure dans son cœur, avait pris la puissance d'un morceau de musique, au son duquel il devait danser. Près de 10 ans plus tôt, Edain avait dû le regarder quitter Falmoran, et quand il était revenu, il ne l'y avait pas retrouvé. Pourtant, il se souvenait clairement de son visage, bien mieux, à dire vrai, que de celui des autres femmes qui avaient partagé sa couche depuis. N'étant plus un gamin, il avait cessé de croire qu'elle l'aimait simplement parce qu'elle avait choisi d'être sa première amante. Mais les hommes du Malkier se répétaient souvent un ancestral proverbe. « Pour l'éternité, ta Carneira porte dans ses cheveux, tels des rubans, quelques lambeaux de ton âme. » Un des battants de la porte s'ouvrit soudain pour laisser passer Bukama. En bras de chemise, le col déboutonné, il paraissait tout nu sans son épée. Non sans hésiter, il ouvrit en grand les deux battants, avant d'avancer dans l'allée.
« Que vas-tu faire ? » demanda-t-il enfin. « Rassel m'a dit au sujet de la grue dorée. »
L'âne remit la chevalière dans sa bourse et laissa le vide s'enfuir de son âme. Un instant, le visage d'Edain sembla flotter partout autour de lui, juste à la périphérie de son champ de vision.
« Selon Rhine, Nazar Kouhanin lui-même est prêt à s'engager, » dit l'âne. « Tu n'aimerais pas voir ça ?»
Une armée pouvait périr si elle s'attaquait à la flétrissure. Par le passé, c'était arrivé plus d'une fois. Mais le souvenir du Malkier agonisait déjà. Et une nation, en d'autres termes une âme, était un souvenir au moins autant qu'une terre.
« Ce jeune garde aux portes de la ville, » ajouta l'âne. « Il pourrait laisser pousser ses cheveux et demander un Hadori à son père. »
Les gens oubliaient, ou pour le moins, ils essayaient. Quand le dernier porteur d'un Hadori aurait disparu, lorsque la dernière femme qui se peignait un point rond sur le front se serait éteinte, le Malkier sombrerait-il lui aussi à jamais dans le néant?
Et Rhine pourrait aller jusqu'à renoncer à Senat.
Toute trace d'ironie disparut de la voix de l'âne quand il ajouta.
Le jeu en vaudrait-il la chandelle? Certains pensent que oui.
Bukama ricana, mais avec un temps de retard. Comme s'il n'était pas très sûr de sa propre position. Approchant de la stalle où attendait l'anse du soleil, le vétéran se mit à jouer distraitement avec les harnais de la selle posés sur la porte. À croire qu'il avait oublié pourquoi il était venu.
« Il y a toujours un prix à payer, » murmura-t-il. « Mais tout dépend de l'enjeu, justement. »« Dame Edain !»
Il jeta un coup d'œil à l'âne, puis se tourna vers lui.
« Elle pense avoir tous les droits et laisse les obligations aux autres. Les coutumes t'emprisonnent, mon ami. Et quoi que tu décides, elle les utilisera pour te manipuler comme une marionnette. Sauf si tu trouves un moyen de couper les fils. »
À tout hasard, l'âne glissa l'épouse derrière son ceinturon. Quand il était bébé, Bukama l'avait sorti du Malkier agonisant, attaché à son dos. Dernier survivant de ses 5 sauveteurs, il avait le droit de parler librement, même quand on en arrivait à la Carneira de l'âne.
Comment suggères-tu que j'échappe à mes obligations sans me couvrir de honte?
Trouvant son ton trop agressif, l'âne inspira à fond et se força à continuer d'une voix apaisée.
Viens, mon ami. La salle commune sent bien meilleure qu'ici.
Rhine m'a proposé une tournée de taverne cette nuit. Tu es invité. sauf si maîtresse Arovni risque d'en prendre ombrage. Au fait, combien coûteront nos chambres? Pas trop cher, j'espère. Au moins, elles sont de qualité.
Rouge comme une pivoine, Bukama emboîta le pas à son protégé, qui se dirigeait déjà vers la double porte.
« Ce ne sera pas ruineux. Je t'ai obtenu une paillasse dans le grenier, et moi, je dormirai dans les appartements de Rassel. J'aurais bien fait une petite virée avec Rhine et toi, mais j'ai peur que... Eh bien, elle ne voudra pas que... Non, nom d'un chien, tu n'y penses pas. La jolie serveuse, Lyra, répète à qui veut l'entendre que tu ne dormiras pas sur la paillasse ce soir, que tu ne dormiras pas beaucoup tout court. Si tu lui fais faux bon. »
Bukama se tut quand les deux hommes déboulèrent à la lumière du jour, éblouissante après la pénombre de l'intérieur. Sur son toit, l'alouette chantait toujours son ode personnelle au printemps. Mais six hommes traversaient la cour, déserte à part eux, en direction des deux compagnons. Six types, tout ce qu'il y avait d'ordinaire, avec une épée sur la hanche, comme tous les passants qu'on pouvait croiser dans les rues de Kanloum. Pourtant, l'âne sut ce qui allait se passer avant même qu'ils portent la main à leur arme et accélèrent le pas, les yeux rivés sur lui. Après avoir rencontré tant d'hommes qui brûlaient d'envie de le tuer, comment aurait-il pu ne pas deviner les intentions de ceux-là? Et à ses côtés se tenait Bukama, lié par un serment qui l'aurait empêché de dégainer sa lame, même s'il avait eu avec lui. Avec une telle infériorité numérique, combattre à main nue contre des épées était un suicide. Et s'ils tentaient de retourner dans les écuries, les tueurs seraient sur eux avant qu'ils aient eu le temps de refermer les portes. L'âne eut l'impression que le temps ralentissait, les secondes s'écoulant comme du miel d'une cuillère.
« Barricade-toi dans le bâtiment !»
ordonna l'âne, tandis que sa main volait vers la poignée de son épée.
« Obéis-moi, soldat !»
De sa vie, l'âne n'avait jamais donné un ordre à Bukama sur ce ton. Le vétéran hésita une seconde, puis il s'inclina et souffla.
« Ma vie t'appartient, Daishan. Je ferai ce que tu me dis. »
Alors qu'il avançait vers ses adversaires, l'âne entendit les barres de la porte retomber en place. Immergé dans le Kodi, il éprouva un soulagement lointain, à l'idée que son ami était en sécurité. Désormais, il ne faisait plus qu'un avec l'épée qu'il venait de dégainer souplement, et avec les hommes qui fondaient sur lui, l'âme au clair, piétinant le sol comme une horde de bêtes sauvages. Un type mince et musclé se détacha des autres. L'âne commença sa danse de la mort. Alors que le temps coulait comme du miel, tandis que l'alouette continuait à chanter, le tueur cria de douleur quand un tranché les nuages d'une rare précision lui coupa la main droite à la hauteur du poignet. S'écartant sur un côté, afin que tous les tueurs ne puissent pas lui bondir dessus ensemble, l'âne enchaîna avec grâce les figures d'escrime. Un crachin au crépuscule creusa un sillon dans la tête d'un gros type, lui faisant sauter l'œil gauche de son orbite. Dans le même temps, les cailloux noirs sur la neige d'un jeune tueur roux laissèrent une longue estafilade sur un flanc de l'âne. À part dans les légendes et les récits des trouvères, un homme seul ne se tirait pas indemne d'un combat contre six adversaires. Une rose épanouie priva un agresseur chauve de son bras gauche. Toujours pressant, le tueur roux entailla la joue de l'âne, juste sous un œil. Non, à part dans les légendes et les récits des trouvères, un homme seul ne survivait pas à un combat contre six adversaires. L'âne le savait depuis le début. Mais alors que la mort ne pesait pas plus lourd qu'une plume, le devoir était écrasant comme une montagne. Aujourd'hui, l'âne avait pour mission de sauver Bukama, l'homme qui avait à jour attaché un enfant dans son dos. Et comme il n'était pas encore mort, contre toute attente, le guerrier qui était devenu cet enfant continuerait à se battre. Dansant sur le fil tendu entre la vie et la mort, l'âne tenta un coup de pied sauté, qui atteignit le requin à la tête, douchant un peu son ardeur. Puis il continua à lutter, infligeant des blessures et en récoltant, à mesure qu'il exécutait son morbide balai. Une seule issue était possible. Mais pourquoi s'en serait-il inquiété? La mort n'était pas plus lourde qu'une plume. Le pissenlit dans le vent ouvrit proprement la gorge du gros tueur très récemment devenu borgne. Furieux, cet assassin professionnel avait à peine marqué une pause quand le coup de l'âne l'avait défiguré. Le baiser de la vipère mit un terme à la vie malfaisante d'un colosse à la barbe pointue. Surpris, l'homme mourut avant d'avoir vraiment compris ce qui lui arrivait. Soudain, l'âne s'aperçut qu'il était le seul debout dans la cour, ses six agresseurs gisant autour de lui. Après un dernier spasme, le jeune tueur roux rendit l'âme, laissant à son vainqueur le privilège d'être le dernier des sept combattants à respirer encore. Secouant sa lame, l'âne se pencha pour l'essuyer sur la veste bien trop luxueuse du colosse, puis il la rengaina selon le rituel, comme s'il était sur une aire d'entraînement, sous le regard sourcilleux de Bukama. Des gens sortirent de l'auberge en criant. des cuisinières d'abord, puis des palefreniers, des serveuses et des clients. Apercevant les 6 cadavres, tous se pétrifièrent. Sauf Rhine, l'âme au poing, qui continua d'avancer vers son ami.
« 6 » souffla-t-il. « Tu as vraiment la fichue chance du ténébreux. »
Lyra arriva aux côtés de l'âne, juste après Bukama. Ensemble, le vétéran et la serveuse écartèrent délicatement les vêtements fendus du guerrier pour évaluer la gravité de ses blessures. Lyra trembla un peu plus à chaque découverte, mais elle ne perdit pas son sang-froid, demandant s'il fallait envoyer chercher une Aes Sedai pour soigner le blessé. Restant aussi calme que Bukama, elle s'interrogea sur le temps qu'il faudrait pour recoudre tout ça, et assura au vétéran qu'elle s'en chargerait, car elle maniait sûrement mieux l'aiguille que lui. Maîtresse Arovni approcha, relevant l'ourlet de sa robe pour qu'il ne traîne pas dans le sang. Puis elle regarda les dépouilles en assurant que les bandits ne se montreraient pas tellement audacieux en plein jour si la garde municipale faisait correctement son travail. La domanie Dodu, qui s'intéressait tant à l'âne dans la salle commune, se déclara exactement du même avis. Pour sa peine, l'aubergiste leur donna sèchement d'aller chercher les gardes, et elle lui flanqua même une bourrade pour l'inciter à se presser. Fallait-il que maîtresse Arovni soit bouleversée pour traiter ainsi une cliente? La domanie ne devait pas être dans son état normal non plus. Sinon, elle ne se serait jamais laissée faire. Reprenant un peu ses esprits, l'aubergiste mobilisa plusieurs hommes afin de tirer les cadavres hors de vue. Rhine regarda Bukama, puis les écuries, comme s'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais il ne posa aucune question.
« Ce ne sont pas des bandits, j'en ai peur. »
Il désigna le colosse.
« Ce type a écouté Edain Arel quand elle est passée par ici, et il semblait subjugué. J'ai cru reconnaître un des autres morts. »
Il secoua la tête, faisant tinter ses clochettes.
« C'est étrange. Dame Edain a parlé de la grue dorée après l'annonce de ta mort devant les murs scintillants. Ton nom l'aide à recruter des hommes, et ta disparition pourrait lui permettre de devenir El Edain. »
L'âne et Bukama foudroyèrent Rhine du regard.
« Je ne l'accuse de rien, »
se justifia celui-ci.
« Il ne me viendrait jamais à l'esprit de soupçonner Dame Edain de duplicité. Je suis sûr que c'est un parangon de douceur et de compassion féminine. »
Maîtresse Arovni soupira à Pierre Fendre, et Lyra murmura que le beau type aux clochettes ne comprenait pas grand-chose aux femmes. L'âne secoua la tête, agacé. À dire vrai, Edain était tout à fait capable de l'avoir condamné à mort, si ça servait vraiment ses intérêts. Et elle avait pu laisser des ordres ici ou là, au cas où les rumeurs sur sa fin se révéleraient exagérées. Mais ce n'était pas une raison pour l'en accuser devant un étranger.
« Où irons-nous quand nous partirons d'ici ?»
demanda Bukama, qui tenait toujours les lèvres d'une des plus graves coupures de l'âne.
« Chachin, »
répondit le guerrier blessé après un moment. Dans la vie, on avait toujours le choix, mais il arrivait que toutes les options soient détestables.
« Tu vas devoir laisser l'anse du soleil ici. Je veux partir dès l'aube demain. »
Avec la petite fortune qu'il trimbalait sur lui, l'âne pourrait sans peine acheter le remplaçant du pauvre équidé boiteux.
« 6 !»
s'écria Rhine en rengainant vivement son épée.
« Je vais vous accompagner, je crois. Il vaut mieux que je ne me remontre pas à Shol Arbella avant d'être sûr que Céline Noréman ne me mettra pas sur le dos la mort de son mari. Et j'aurai plaisir à voir de nouveau voler la grue dorée. »
L'âne acquiesça. Il devait y aller. Pour s'emparer de l'étendard, quitte à renoncer au serment qu'il s'était fait, au sujet des Malkyrie, ou pour arrêter Edain, si c'était possible. Quoi qu'il en soit, il ne pourrait pas éviter de l'affronter. Et la flétrissure lui semblait une ennemie moins redoutable.